9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique.
Nous qui allons, dans moins d'un an maintenant, célébrer le bicentenaire de la mort de Napoléon Ier, nous avons sans doute du mal à imaginer quelle a été l'extraordinaire conséquence de l'épopée napoléonienne sur la France du 19e siècle. Ça a été un impact considérable. L'empereur, en chutant définitivement en 1815, a laissé derrière lui un vide immense. Et les Français qui, alors certains avaient été ses partisans, d'autres avaient été ses opposants, mais en tout cas, tous ont dû composer avec la fin d'un élan, d'une vigueur, d'une fièvre qui avait été unique dans l'histoire. Or, ni la restauration étriquée des Bourbons en 1814-15, ni la monarchie bourgeoise de Louis-Philippe en 1830 ne sont parvenus à combler le vide laissé par l'épopée impériale. C'est Musset, Alfred de Musset, qui, dans les Confessions d'un enfant du siècle, se fait l'écho de ce mal du siècle. Je le cite, Musset. « Trois éléments partageaient la vie qui s'offrait alors aux jeunes gens. Derrière eux, un passé à jamais détruit, s'agitant encore sur ses ruines avec tous les fossiles des siècles de l'absolutisme. Devant eux, l'aurore d'un immense horizon, les premières clartés de l'avenir. Et entre ces deux mondes, quelque chose de semblable à l'océan qui sépare le vieux continent de la jeune Amérique, je ne sais quoi de vague et de flottant, une mer houleuse et pleine de naufrages, le siècle présent en un mot, qui sépare le passé de l'avenir, qui n'est ni l'un ni l'autre et qui ressemble à tous deux à la fois, et où l'on ne sait à chaque pas qu'on fait si l'on marche sur une semence ou sur un débris. » Certains ont tiré de ce sentiment de malaise quelque chose qui s'apparentait au romantisme. D'autres ont cherché à dépasser ce malaise dans une quête passionnée, soit d'un autre régime, je pense bien sûr à tous les républicains, soit en magnifiant le mythe de l'empereur, et de l'empire. Parmi les images impossibles à oublier, évidemment, celle du sacre de Napoléon Ier, le 2 décembre 1804, sacre immortalisé par David sur une immense toile, tout le monde l'a en tête, ce tableau, le décor grandiose de Notre-Dame, l'air concentré de l'empereur, avec sa tenue à la romaine, blanc et or, son manteau écarlate et la manière dont, en tournant le dos au pape Pie VII, il saisit la couronne qu'il va déposer sur la tête de Joséphine, agenouillée là devant lui. Qu'importe si en réalité le sacre n'a pas été tout à fait aussi beau que le peint David, il n'a pas été non plus un instant de réconciliation définitive entre l'héritage de la Révolution et le sacre divin. Mais ce sacre s'est imposé dans beaucoup d'esprits comme un apogée qui trop vite a été emporté par le vent de l'histoire. Il n'est pas étonnant à partir de là que presque un demi-siècle après, le neveu de l'empereur Napoléon Ier, le prince président, puisqu'il a été Louis-Napoléon Bonaparte, il a été élu président de la Deuxième République, il fait son coup d'État le jour anniversaire du sacre, donc le 2 décembre 1851, et pas étonnant qu'avec tout cela, il prépare le rétablissement de l'Empire et son propre sacre. Il voudrait lui aussi être sacré par le pape à Notre-Dame de Paris. On voudrait rééditer en quelque sorte l'exploit de Napoléon Ier. Seulement, il y a quand même un gros problème pour ça, c'est qu'il va falloir convaincre à Rome le pape Pie IX. Autant dire que ce qui commence, c'est une étonnante aventure diplomatique. A priori, Louis-Napoléon Bonaparte a quand même un bel atout pour décider le pape à le sacrer. Celui-ci lui doit une fière chandelle, puisque 3 ans plus tôt, en 1849, alors que Pie IX avait dû quitter Rome chassé par une révolution républicaine, la France s'était mêlée de l'histoire. C'est Éric Anceau qui nous rappelle que la France avait envoyé, la France donc du président Bonaparte, avait envoyé des troupes dans le Latium, au départ pour une médiation armée. Louis-Napoléon avait un petit peu hésité, parce que d'un côté, il savait que s'il secourait tel pape se serait très bien vu dans le camp catholique, dans l'opinion catholique dont il avait grand besoin, mais il savait aussi que dans sa jeunesse, il ne l'avait pas oublié, hein, il avait combattu aux côtés des républicains italiens, il était encore touché par leur cause. Bref, pour des raisons dans lesquelles je ne vais pas rentrer, la situation sur place c'est compliqué, l'armée française s'est finalement emparée de la ville éternelle et elle a rendu Pie IX redevable. Le pape avait une dette envers celui qui était encore président mais qui devenait empereur. Est-ce que ça veut dire que la gratitude papale va faciliter le sacre en 1852 ? Peut-être pas, parce que Louis-Napoléon a eu quand même pas mal de désaccords avec le pape, il doit tâter le terrain. Pour ça, il va devoir envoyer sur place des intermédiaires discrets, efficaces. Il faut qu'il envoie de bons ambassadeurs s'il veut être pris au sérieux par Pie IX. Alors il va mandater deux personnes. D'un côté, un prélat qu'il connaît bien, Monseigneur de Ségur, dont la mère est la future auteure des Malheurs de Sophie, vous savez, Sophie Rostopchine. Et puis de l'autre, le général de Cotte. Le premier Ségur à l'oreille du pape, le second Cotte est un officier proche qu'il envoie en poste au sein de l'armée qui, toujours à l'époque, est en train de défendre Rome. Une manière, si vous voulez, de rappeler au pape ce qu'il lui doit. Du succès de leur mission à tous deux va dépendre, pour le nouvel empereur, la possibilité d'être sacré. Coup de canon, un cœur final, vive l'empereur pour cet hymne à Napoléon III qui a été composé pour l'exposition universelle de Paris en avril 1867. Le chœur et l'orchestre symphonique Giuseppe Verdi de Milan étaient sous la direction de Riccardo Chailly. Mais qui était le compositeur, me direz-vous ? Eh bien, c'était un homme qu'on commençait à oublier un petit peu. Il avait 74 ans en 1867. C'était, eh oui, Gioachino Rossini qui avait composé cet hymne à l'empereur Napoléon III. Regardez comme ils ont l'air sérieux là tous les deux. On est à la fin de l'été 1852. Le général de Cotte, bien sanglé dans son bel uniforme. Monseigneur de Ségur avec le grand camaille et la pourpre cardinalis. Ils sont là tous les deux, bien sérieux, face au pape Pie IX. À première vue, le pape a l'air plutôt aimable, hein. C'est un bon grand-père avec un regard plein d'intelligence, au visage replet, au trait doux. C'est un homme solide quand même, et c'est un homme auquel on ne peut pas la faire. Hein. Le général est en train de le jauger, et bien puisque c'est le cas, le pape lui explique qu'avant de songer à un sacre pour le futur empereur, il y a des questions qui posent encore problème. La loi en France paraît en effet très inadéquate dans le domaine religieux. Si le pape se déplaçait à Paris, il donnerait le sentiment de s'en accommoder. Ça, ce n'est pas possible, vous comprenez ? Pie IX, en particulier, évoque ces articles organiques que Bonaparte, en son temps, avait cru bon d'adjoindre au Concordat, sans prévenir Rome, bien entendu. Dans un article d'Historia